9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Les longs commencent tout de suite cette émission avec Marie Dosé qui lance un pavé dans la mare avec son éloge de la prescription. Rendre imprescriptible de plus en plus de crimes est devenu un refrain entonné par beaucoup de monde, notamment dans les affaires de viol, de pédocriminalité, de terrorisme, d'assassinat d'enfants ou de policiers. Marie Dosé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris et vous publiez « Éloge de la prescription » aux éditions de l'Observatoire. Vous rappelez qu'il s'agit d'un principe fondamental qui a toujours existé. Alors pourquoi fondamental ?
Fondamental parce que c'est un principe d'abord qui nous aide à lutter contre l'arbitraire. Le temps de la preuve, lui, n'est pas éternel. Donc plus le temps passe et moins on dispose d'éléments de preuve pour pouvoir condamner. Donc c'est aussi un instrument qui permet de lutter contre l'arbitraire d'une condamnation sans preuve et de poursuite éternelle.
En général, la prescription, c'est 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions. Mais il y a des exceptions. Hein. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Les crimes de guerre, les crimes terroristes, le trafic de drogue en bande organisée, la prescription, c'est au bout de 30 ans. Les crimes sexuels sur mineurs, c'est 30 ans après la majorité de la victime, donc plus tard qu'un crime de guerre ou qu'un attentat terroriste, on se dit forcément, si on peut faire des exceptions tout le temps, pourquoi pas en faire pour tout ?
Oui, en réalité, il ne reste plus grand-chose de ce principe fondamental. Hein. À force de nourrir les exceptions, le principe n'existe carrément plus, quasiment plus. C'est-à-dire que quand on y réfléchit à l'échelle d'une vie humaine, je vois mal comment, dans les années qui viennent, on va pouvoir se heurter à un moment donné à la prescription. Parce qu'il y a aussi l'interruption de la prescription, la suspension de la prescription, les infractions qui sont occultes ou dissimulées. Et là, le point de départ, c'est au moment où on les découvre. De plus en plus d'infractions ne sont plus ce qu'on appelle des délits instantanés. Donc, oui, réellement, je crois qu'à force de réformer les réformes et puis du fameux phénomène un fait divers, une loi ou une émotion populaire, une loi, la prescription est en train de perdre petit à petit de son efficience.
Mais vous le dites vous-même, Marie Dosé, la mémoire est forcément vertueuse. C'est comme ça qu'on le voit. Et forcément, l'oubli est préjudiciable. Si on oublie, c'est au mépris des victimes. Or, la prescription, c'est justement parce que la société, à un moment, veut qu'on oublie.
C'est pas tout à fait ça. La prescription, ça n'est pas dire il n'y a pas eu de crime. C'est dire on ne peut plus poursuivre les faits que vous dénoncez. On ne peut pas prendre le risque de les poursuivre parce qu'on n'a plus les moyens de le faire. C'est ça qui est important. Et la mémoire, elle ne sert pas qu'à se souvenir. Elle doit servir aussi à oublier. Je sais, parce que j'en défends des victimes, à quel point, non, c'est pas vrai. On n'oublie jamais. On n'oublie jamais, dans le sens premier du terme, le mal qui vous a été fait dans la chair, la violence de ce qui vous a été fait. On arrive à le ranger quelque part. On arrive à maîtriser cette propension du mal qui vous a été fait à être ravivé sans cesse. On arrive à un moment d'une vie, on y parvient à force de travail, notamment de travail psychologique, on parvient à maîtriser cela. Mais ça n'est pas de l'oubli en soi. Et la prescription, c'est pas l'oubli judiciaire, c'est pas dire vous ne l'avez pas vécu, c'est pas ça. C'est juste de dire ce que vous avez vécu, nous en avons eu connaissance trop tard pour pouvoir le poursuivre. C'est tout. Et c'est pour ça qu'il faut développer d'autres mécanismes que le judiciaire. Le recueil de la parole des victimes doit se faire aussi ailleurs, quand ce n'est plus possible.
Mais il y a l'impunité aussi, l'impunité des coupables, et ça c'est de moins en moins supportable.
Oui, on est aujourd'hui dans une société qui veut poursuivre nécessairement, toujours, tout le temps, et sans cesse. Mais je vais même vous dire, celui qui est puni, même à la fin de l'exécution de sa peine, ça ne va pas. C'est pas suffisant. C'est-à-dire, bon, je fais une parenthèse, mais on l'a vu pour Bertrand Cantat, c'est-à-dire qu'il a purgé sa peine, on est d'accord, il a été condamné, il a purgé sa peine. Bon, ben, il en a été jusqu'à verser la peinture rouge sur ses spectateurs en hurlant le sang de Marie pour l'obliger à terminer sa tournée. Ça n'était pas fini. C'est le bannissement. C'est-à-dire qu'on est plus aujourd'hui dans une société qui veut bannir que punir, parce qu'on veut des poursuites éternelles. Et même après que la peine ait été purgée, on veut toujours poursuivre. Et ça, c'est une société qui souffre et qui va mal. Une société qui est toujours en colère contre elle-même. Vous savez, à un moment donné, moi j'ai le sentiment qu'on enferme celui qui a commis un crime dans son crime jusqu'à la fin de ses jours, et qu'on enferme du coup la victime qui a subi ce crime dans son traumatisme. C'est pas l'aider du tout.
Imagine-t-on ce que serait un État qui poursuivrait sans fin les crimes et les délits ? Vous posez la question dans votre livre. Ça ressemblerait à quoi ?
Le règne de l'arbitraire et de la vengeance. Voilà, ce serait probablement, à mon humble avis, la fin de l'état de droit. D'un côté, on aurait nécessairement beaucoup plus de décisions de relax, d'acquittement et de non-lieu, parce qu'on n'aurait pas la preuve. Donc on nous expliquera que la justice, elle n'écoute pas les victimes, qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elles ont vécu, et puis que c'est une justice patriarcale, par exemple. Mais de facto, on aura d'autant plus de décisions de relax et d'acquittement parce qu'on n'aura pas la preuve. Mais en même temps,
il y a l'ADN aujourd'hui qui a beaucoup changé.
Mais c'est pour ça qu'attention, hein, moi je suis tout à fait pour, et je l'écris, il était nécessaire en 2017 de doubler le délai de la prescription de prescription de l'action publique. On est passé de 10 à 20 ans pour les crimes et de 3 à 6 ans pour les délits.
À cause de l'ADN.
Oui, j'ai pas, en tout cas des progrès techniques, et j'ai pas de difficulté là-dessus, c'était nécessaire. Mais attention, on est en train aussi de tricher, c'est une véritable escroquerie. Quand on vous dit aujourd'hui, vous vous rendez compte, il faut réformer, c'est scandaleux, le frère de Camille Kouchner ne peut pas déposer plainte, c'est prescrit. Ou Vanessa Springora ne peut pas déposer plainte, c'est prescrit, c'est scandaleux, il faut réformer la loi. Mais elle l'est déjà. On nous ment. On confond deux principes, la non-rétroactivité de la loi pénale et la prescription. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on peut déposer plainte jusqu'à ses 48 ans.
Camille... Oui, 30 ans après sa majorité.
Exactement.
Dans le cas des deux personnes
Exactement.
Dont vous parlez.
Et quand elles dénoncent ces faits-là, elles ont moins de 48 ans. Mais seulement la loi qui s'applique à ce moment-là, c'est celle qui était en vigueur il y a 20 ans quand elles ont subi ces faits. La loi n'est pas rétroactive, c'est tout à fait normal, mais on a déjà pris en considération tout cela. Et pourtant, tous les projets de loi et toutes les propositions de loi commencent par « c'est scandaleux, nous sommes confrontés à la prescription de certains crimes, il faut réformer ».
On fait une pause, Marie Dosé, on en reparle juste après.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
On est toujours avec Marie Dosé, avocate au barreau de Paris, qui publie Éloge de la prescription. On accepte l'imprescriptibilité pour les crimes contre l'humanité. Or, s'attaquer à un enfant, violer une femme, décapiter un professeur, c'est nier leur humanité. C'est un crime que l'on commet contre le genre humain dans son entier. C'est aussi pour ça que les gens se disent « mais pourquoi ceux-là sont prescriptibles ?»
Non, 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 ce n'est pas la même chose. Je pense que quelle que soit l'émotion et l'horreur que cela suscite, et nous en savons tous quelque chose, et effectivement, cela nous concerne tous. Lorsqu'un enfant est violé, lorsqu'un professeur est décapité, ça n'est pas un crime contre l'humanité dans le sens juridique du terme. Un crime contre l'humanité, c'est un crime systématique contre toute une population. Un enfant n'est pas toute une population. Un professeur n'est pas toute une population. Symboliquement, j'entends ce que vous dites, mais la gravité n'est pas la même. Et c'est important, à un moment donné, de hiérarchiser des crimes. Je suis désolée, mais il faut que les crimes contre l'humanité restent imprescriptibles, évidemment. Et il faut prendre en considération le fait qu'un enfant ne puisse pas déposer plainte et puisse le faire à compter de ses 18 ans. Ça, c'est une évidence aussi. Mais un crime commis contre un enfant n'est pas un crime commis contre l'humanité. Ça n'est pas la même chose.
Quand il n'y a pas de procès, et quand les crimes ont été prescrits, il n'y a pas de procès, on ne peut pas faire son deuil, entend-on dire. Les procès seraient nécessaires pour les victimes et pour leurs proches.
Oui, c'est faux. C'est faux, et qu'est-ce que ça voudrait dire? Toutes celles qui ont, ou tous ceux qui ont été agressés, violés ou malmenés par des agresseurs dont on ne connaît pas l'identité ne feront jamais leur deuil, n'ont jamais pu faire leur deuil. C'est pas vrai. Faire dépendre du sort judiciaire de l'accusé la réparation de son traumatisme, c'est ce qu'il y a de pire. Moi, je reçois des victimes dans mon cabinet et très souvent, je leur dis voilà, vous avez fait le plus gros, vous avez fait le plus beau, vous avez déposé plainte, vous avez saisi la justice. Moi, je suis votre avocat et je vais m'occuper de cette page judiciaire. Vous allez vous réparer ailleurs. Le procès n'est pas là pour vous réparer. Il n'y a pas de vertu cathartique, thérapeutique au procès. Il a désormais rendez-vous, lui, avec la justice de son pays et vous avec une réparation qui ne se fera pas dans le temps du procès. Il y a des miracles d'audience, ça existe. Mais vous savez, pour la plupart des victimes, la procédure judiciaire, elle ravive souvent le traumatisme. Il faut raconter à nouveau, il faut se confronter parfois à quelqu'un qui ne reconnaît pas les faits. Et puis même quand il le reconnaît, je le sais, je suis en audience, quand il le reconnaît, les faits, ça ne va jamais. Soit il dit pardon et on se dit il le dit parce qu'il ne veut pas aller en prison ou parce qu'il espère une peine moindre. Soit il reconnaît les faits mais il fallait le dire plus tôt ou alors avec plus de sincérité. C'est normal, c'est normal. Le temps judiciaire n'est pas le temps de la guérison.
Notre sollicitude envers les victimes est telle que les magistrats ouvrent aujourd'hui des enquêtes préliminaires sur des faits pourtant prescrits. Comment l'expliquez-vous ?
Nous l'avons dénoncé, hein, plusieurs de nos confrères, parce que là, je pense qu'on va très vite être piégé à ce jeu-là. Pourquoi ? On ouvre des enquêtes préliminaires sur des faits prescrits et nécessairement, durant l'enquête préliminaire, on mène des investigations. À la fin de l'enquête préliminaire, le procureur de la République se permet de dire « les faits sont certes prescrits, mais l'infraction pourrait être constituée ». Mais ça, c'est la judiciarisation du doute. Le procureur, ce n'est pas un magistrat indépendant. C'est-à-dire que celui qui clame son innocence, qui crie son innocence, pour lui, les faits sont prescrits. Il ne pourra jamais être jugé devant un tribunal correctionnel, jamais rencontrer un juge indépendant. Et par contre, on dira « classement sans suite, c'est prescrit, mais double peine ». Si ça ne l'était pas, ça pourrait quand même être constitué, vous pourriez quand même être coupable. Mais imaginez-vous, là, c'est même plus une offense à la présomption d'innocence, non. C'est la judiciarisation du soupçon. Nous sommes quand même dans un pays où le proverbe préféré des Français, c'est « il n'y a pas de fumée sans feu ». On ne s'en sortira pas de ce genre de pratique.
Mais justement, l'ultra-judiciarisation que l'on connaît aujourd'hui, vous dites qu'elle participe de l'infantilisation de nos sociétés. Pourquoi ?
Parce que je pense qu'on investit beaucoup trop le champ judiciaire et qu'on fait croire, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, aux victimes qu'elles iront mieux si leur bourreau est lourdement condamné et que tant qu'il n'est pas condamné, elles ne peuvent pas se réparer, ce genre de choses. Je pense très sincèrement que ça, oui, ça participe à une forme d'infantilisation. Ce qui nous a été fait doit être réparé entre soi et soi. Mais il y a des mécanismes qui sont prévus, et notamment dans notre droit. Mais on ne met pas assez de moyens dans ces mécanismes-là. Je parle aussi de la justice restaurative. Il est temps que la parole des victimes se répare ailleurs que dans le judiciaire, mais pas sur la place publique, parce que là non plus, ça ne les aide pas à être marquées au fer rouge de ce qu'elles ont vécu. La justice restaurative, il y a des choses merveilleuses qui sont faites. Des rencontres entre les victimes et les condamnés. Et des rencontres en dehors de tout dessein judiciaire, en dehors de toute velléité de voir la justice rendue, c'est pas ça. Moi, j'ai rencontré des victimes et d'ailleurs des condamnés, les deux, qui ont participé à ce genre de rencontre, et des victimes qui disent « mais jusque-là, j'avais peur qu'il sorte. Celui qui m'a fait du mal, j'ai plus peur. J'étais obsédée par la question, maître, j'étais obsédée par la question « pourquoi moi ?» Eh bien, de les rencontrer, de les écouter, je me rends compte qu'en fait, c'est pas moi. Ça aurait pu être n'importe qui. Ce genre de choses. Et plus fort encore, je me souviens d'une victime qui m'a dit, depuis le début, je lui dis, mais comment il a pu passer à l'acte? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui l'a motivé? Et je me rends compte d'une chose, c'est qu'il se pose la même question que moi. Et ça m'a fait du bien. C'est ça qu'il faut travailler. Voilà, ça, c'est pas de l'infantilisation. C'est un vrai travail de réparation. Il serait peut-être temps qu'en France, on mette des moyens dans ce travail de justice restaurative.
Merci Marie Dauzé d'être venue dans cette émission. Éloge de la prescription, ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. On fait une pause, on se retrouve avec Jérémy Pelletier pour son livre « La fête est finie » aux éditions de l'Observatoire, comme le vôtre. Mince, c'est un hasard dont je demande à tous les autres éditeurs de bien vouloir m'excuser, ça ne se reproduira plus.
Oui, c'est une excellente maison d'édition.
Merci Marie Dauzé.
Merci à vous.